Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Dogofri, même heure partout au Mali. Bonjour et bienvenue à la une de cette édition. Le blocus des djihadistes sur le village de Farabougou a été levé ce dimanche à la suite d'un accord de cessez-le-feu signé entre les groupes djihadistes et les chasseurs traditionnels d'Onso. Ce pacte de non-agression promet la libre circulation des personnes et de leurs biens. 33 morts et 14 blessés, c'est le bilan d'une embuscade terroriste tendue ce lundi contre l'armée malienne entre Lelehoy et Tessit. Au même moment, des dizaines de migrants retenus par les groupes djihadistes ont été libérés grâce à une intervention de l'armée malienne. Notre dossier culturel de ce matin s'intéresse au djembé, cet instrument de musique africaine jadis incontournable dans la célébration de grands événements, s'est fait de plus en plus rare lors des manifestations. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Un accord de cessez-le-feu a été conclu ce dimanche à Farabougou dans le cercle de Nyono entre les groupes armés djihadistes et les chasseurs traditionnels d'Onso sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali. Pour le maire de la commune de Dogofri, cet accord, bien que temporaire, pourrait apporter une bouffée d'oxygène aux habitants du village de Farabougou qui vivent sous le blocus depuis presque 6 mois. Les explications avec Ali Cissé.
Selon les émissaires du Haut Conseil islamique qui ont conduit les négociations, le contenu de cet accord comprend entre autres la libre circulation des personnes et leurs biens, la libération des prisonniers et la possibilité pour les djihadistes d'aller prêcher dans les villages. Selon eux, le port du hijab et le prélèvement de la zakat ont été levés. Mohamedou Moufa Haidara, négociateur du Haut Conseil islamique.
Toutes les deux parties ont annoncé leurs conditions. Elles se sont engagées à laisser les gens circuler librement et à aller dans leurs champs. La principale voie qui mène à Farabougou également est praticable maintenant. Aucune mine n'y sera posée. Ils se sont également engagés à ne tirer aucun coup de feu et toutes les parties s'engagent à faciliter le retour des déplacés.
Toutefois, les élus de la commune de Dogofré souhaitent que cet accord temporaire signé entre les deux parties devienne un accord durable au bénéfice des populations. Selon eux, toutes les parties se sont accordées sur une trêve d'un mois afin de permettre aux populations de vaguer à leurs occupations. Cette trêve doit être respectée et prolongée, ajoute-t-il. Zoumana Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune de Dogofré.
Tous les accords qui ont été signés depuis l'arrivée des 4 ministres n'ont tenu que les jours même et les jours après. Cet accord est bon, que tout le monde se pardonne. Faire une trêve d'au moins 1 mois. Et les deux parties doivent s'engager à libérer les otages. Ceux qui étaient venus aider les djihadistes commencent à repartir.
Rappelons que Farabougou était sous le blocus des groupes armés extrémistes depuis le 6 octobre 2020.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre site web au www.sultamani.org ou appeler gratuitement sur la plateforme Viamo 37 321. Début de semaine sanglante dans le nord du Mali et au Niger, l'armée malienne a annoncé ce lundi la mort de 33 militaires suite à une embuscade terroriste entre Lelehoy et Tessit dans le cercle d'Ansongo. 3 civils ont été blessés à Gao et Menaka, à des kilomètres de cette partie du pays. Dans la région de Tillabéri au Niger, des hommes armés ont fait un carnage. 58 civils ont été tués selon des sources officielles. Les détails avec Momine Sendebou.
Selon le chef d'état-major général des armées du Mali, cette attaque contre les forces armées maliennes a été menée par une centaine de terroristes à bord de pick-up et sur des motos à 60 km dans Songo, dans la région de Gao. Bilan de l'attaque, 33 militaires tués, 14 blessés et 3 véhicules détruits. Le chef d'état-major général des armées précise que 20 terroristes ont été également neutralisés. À la frontière Mali-Niger, dans la région de Tillabéri, 58 personnes ont été tués ce mardi. Les victimes revenaient du marché hebdomadaire de Banibangou quand elles ont été prises à partie. Les assaillants ont également incendié 2 véhicules, emporté 2 autres et brûlé plusieurs greniers. Ce mardi toujours, dans la région de Gao, deux bandits armés ont ouvert le feu sur le poste de sécurité de Wabaria. L'un a été arrêté par l'armée et l'autre a réussi à s'enfuir. Des civils ont été blessés suite à cette attaque. Le même jour, un véhicule de l'ONG IRC a été enlevé par des hommes armés à Bentia. Au même moment, dans la soirée, à Menaka, un enseignant a été blessé par des individus armés. Il a été admis au CCRF. Selon les responsables sanitaires, son pronostic vital n'est pas engagé.
Et suite à cette attaque contre l'armée malienne sur l'axe Lele-Hoïté-Site, 3 jours de deuil national ont été décrétés sur toute l'étendue du territoire à compter de ce jeudi 18 mars 2021. La décision a été prise hier soir par le président de la transition, Bandawa. Des dizaines de migrants expulsés du territoire algérien sont arrivés mardi dernier à Gao, dans le nord du Mali. Ces personnes qui avaient été retenues par les groupes djihadistes ont été libérées grâce à une intervention des éléments de la plateforme et de l'armée malienne. À Gao, nous retrouvons notre correspondante Adisa Toumaïga.
Ils sont 73 migrants, dont 15 enfants et 8 femmes, parmi eux des Maliens, des Burkinabés, mais aussi des Guinéens, expulsés d'Algérie. Ils ont été récupérés grâce à une patrouille des éléments de la plateforme et des FAMA qui les ont conduits à Gao. Moussa Ag Hagda, chef de poste de sécurité de la plateforme Gacha à Agelhok, nous livre les conditions dans lesquelles ces personnes ont été secourues.
C'est des gens qu'on a trouvés qui étaient en détresse et qui voyaient dans de très mauvaises conditions à cause de l'insécurité et puis les frontières aussi sont fermées. On a décidé de les faire revenir pour les remettre aux autorités afin qu'ils soient dans de bonnes conditions.
Le représentant du ministère des Maliens de l'Extérieur, Amara Aga Hamdouna, a salué l'implication des groupes armés de la plateforme pour la libération de ces migrants. Il invite les candidats, notamment les femmes et les jeunes, à éviter l'immigration clandestine.
Les migrants arrivés ici, la majorité sont des enfants et des femmes. Et on encourage également nos compatriotes de vraiment faire très attention d'embarquer les enfants et les femmes dans cette histoire d'immigration irrégulière. Il faut que les gens se confirment à la loi.
Plusieurs migrants maliens et de la sous-région traversent le nord du pays pour le Maghreb avant de tenter d'entrer en Europe. Mais aujourd'hui, ces routes sont de plus en plus dangereuses à cause de l'insécurité au Sahel. De Gao, Hadizatou Mohamed Meiga pour Studio Tamani.
Sur un tout autre sujet, la vente de l'Institut national des arts INA continue d'alimenter la polémique au sein de l'opinion publique. La vente de cet établissement a été dénoncée hier lors d'une conférence de presse de la Fédération des artistes du Mali, le réseau qui a l'Union des associations des artistes, des producteurs et des éditeurs du Mali. Les explications dans ce reportage d'Elisabeth Walet Mohamed.
Pour Adama Traoré, président de la FEDEMA, les raisons évoquées pour justifier cette vente ne sont pas valables. Selon lui, l'ancien emplacement de l'INA est et demeure le meilleur pour des raisons culturelles.
C'est un lieu très chargé de symboles et que ce lieu-là, nous ne devons pas accepter qu'on s'en débarrasse comme si c'était un vieux champ.
Cet avis est aussi partagé par les responsables du réseau KIA. Pour ces derniers, le fait même de traverser le marché pour se rendre à l'Institut est une grande source d'inspiration pour les artistes. Fousseini Diakité, président du réseau KIA.
Que ce soit le son, les couleurs, les contrastes et tout ça, que vous soyez danseur, écrivain, comédien ou peintre, ça inspire.
Toutefois, de son côté, l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali suggère une rénovation complète de l'établissement au lieu de sa délocalisation. Mamoutou Keïta, président de l'UAPREM.
Notre position est très claire. Pas de délocalisation de l'INA, pas de vente de l'INA, agrandissement de l'INA, rénovation de l'INA, oui.
En attendant une solution adéquate à cette situation, la synergie de ces associations compte bien poursuivre son combat pour annuler la vente de cet établissement.
On en vient à notre dossier du jour. Le djembé est un instrument de musique d'origine africaine. Selon des traditionnalistes, cet instrument fait à base de bois est jadis joué lors de la célébration des grands événements. Il est aussi utilisé pour attirer l'attention, pour passer des messages de sensibilisation ou pour lancer des alertes. Cependant, ils expliquent qu'il existe plusieurs types de djembé. Quels sont ces types de djembé? Qui est habilité à jouer cet instrument? Éléments de réponse dans ce reportage d'Aissata Diarra.
Ibrahim Yanogé, alias Cobra, est un fabricant et joueur de djembé ici à l'artisanat depuis plusieurs années. Assis sous un hangar et entouré de ses disciples, Yanogé nous explique comment se fait la confection d'un djembé.
On fabrique le djembé avec du bois. Avant, on cousait ses bordures. Mais aujourd'hui, on le soude avec le fer. Ensuite, on pose la peau dessus avec le carcan et la corde. C'est le dessus qu'on appelle carcan. On a plusieurs types de djembé. Il y a un qu'on appelle Soulé Tassa djembé. Il y a un autre qu'on appelle Nagani. Et il y a un même qu'on appelle Mangoro djembé.
Pour des traditionnalistes, le nom djembé emprunté au soninké, djembayere, a été attribué à cet instrument à cause de sa résonance attractive. Selon l'artiste chorégraphe Kardjiki Laiko Traoré, tout le monde peut jouer le djembé de nos jours comparativement au passé où il était réservé à une classe initiée.
Le djembayere, c'est le grand tambour qui se joue ou debout ou entre les cuisses pour signaler certaines choses. Et le petit djembayere, c'est le djembé. Généralement, c'est les cordonniers et les forgerons qui jouent de cet instrument. Mais maintenant, il est devenu l'instrument de tout le monde, hein, sans distinction.
Cependant, les sculpteurs et les artistes souhaitent la mise en valeur de nos instruments de musique, qui, selon eux, sont en voie de disparition de nos jours au détriment des instruments de musique d'ailleurs.
Faisons à présent le point de la situation de la COVID-19 au Mali. À la date du mercredi 17 mars 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 48 nouveaux cas positifs, 30 patients guéris et un décès. Ainsi, la situation cumulée est de 9066 cas positifs, dont 6556 guéris et 365 décès. À présent, place à notre rubrique Actu COVID, présentée par Aïssata Diarra.
Chers auditeurs, bienvenue dans la rubrique d'ActiCovid. Aujourd'hui, nous vous proposons une série de questions répondues par 5 spécialistes de la santé.
Allô, arrive-t-il qu'un patient soit déclaré positif alors qu'il ne l'est pas?
Il y a ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs. Des gens qu'on déclare négatifs alors qu'ils sont positifs ou des gens qui sont positifs qui sont réellement négatifs. Et ça, c'est vraiment infime partie. La spécificité du test est de 98%. Donc scientifiquement, la proportion des gens qui vont être faux positifs ou faux négatifs est très faible.
Utiliser le même casque pour emprunter les mototaxis peut-il être un facteur de contamination à la COVID-19?
Si une personne infectée par le virus avait porté le casque et qu'une autre porte le même casque, si la personne sera infectée, le mieux est de chaque fois désinfecter le casque avant que quelqu'un d'autre ne le porte.
Allô docteur, parmi les malades de COVID-19 au Mali, on constate que les hommes sont plus touchés que les femmes. Scientifiquement, qu'est-ce qui l'explique?
Effectivement, c'est comme la tuberculose. Peut-être il s'agira de la susceptibilité génétique et aussi du fait que l'homme est plus mobile que la femme. Mais tout ceci-là seront éclairés au fur du temps parce qu'il y a plusieurs projets de recherche qui sont là pour essayer de répondre aux questions des uns et des autres.
Allô docteur, le dépistage massif est-il un moyen efficace pour limiter la propagation du coronavirus?
Très belle question. On vous a parlé des porteurs sains asymptomatiques. Il y a des malades et même ils ne savent même pas qu'ils sont malades. En faisant le dépistage des malades, on peut déterminer ces malades-là pour les traiter. Donc le dépistage des masques, c'est la solution idoine pour rapidement rompre la chaîne.
Allô professeur, avec le développement des vaccins, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la pandémie soit arrêtée dans le monde?
Tout épidémie, casser la chaîne de transmission, il faudrait au moins vacciner près de 80% de la population. Est-ce que la disponibilité du vaccin, même au niveau mondial, peut atteindre ces 80%? J'en doute. Pour le Mali pratiquement, les doses qui sont prévues pour le pays ne vont pas couvrir les 80% de la population. Cette vaccination, si elle est efficace, elle a une certaine durée. On ralentit la transmission, sinon si on respecte les mesures barrières, on pourrait atténuer de façon considérable l'épidémie.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez les conseils des médecins pour vous protéger de la maladie à coronavirus.
Et cette information du haut représentant du président de la transition qui recommande au comité scientifique de sursoir à l'utilisation du vaccin AstraZeneca, je pense qu'il serait prudent au nom du principe de précaution de sursoir à l'utilisation de ce vaccin sous réserve d'acquisition d'autres types de vaccins, a déclaré le haut représentant dans une lettre adressée aux membres du comité scientifique. Selon lui, la présidence est sur le point d'obtenir 3 millions de doses du vaccin Sputnik V et du vaccin chinois de Sinovac.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, le présumé coupable du meurtre d'une jeune fille âgée d'environ 15 ans est retrouvé et corrigé le samedi dernier à Koulikoro-Souba, a été identifié et arrêté le même jour par les forces de l'ordre. Selon les enquêtes préliminaires, c'est un jeune de 17 ans qui travaillait comme employé dans la même famille que la victime qui serait l'auteur du crime. Il a été interpellé par la police en attendant d'être traduit devant les tribunaux. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter et sur le site web www.jotamani.org ou réécoutez gratuitement ces infos sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Tout de suite, la version Bambara de cette édition, une présentation de Idrissa Sako, mais avant tout de suite, le magazine. C'est Jotamani.